Chers auditeurs et contributeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver. J'ai choisi de vous offrir aujourd'hui une émission en relation avec la défense de la langue française. Et le thème de cette émission est le suivant: trahie par les élites, la francophonie, vecteur historique de la puissance française dans le monde. Et pour traiter d'un sujet aussi vaste, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Anne Brassier, écrivain et critique littéraire et ancienne patronne d'émission à Radio Courtoisie.
Bonjour, chers amis de TV.
Monsieur l'ambassadeur Albert Salon, président fondateur du Haut Conseil international de la langue française.
Et de la francophonie.
Et Pierre-Luc Farret, écrivain et délégué général de la Société française de géopolitique, et Jean Larmande, secrétaire général du Cercle Renaissance et de la Société française de géopolitique. Et puis, bien sûr, vous le savez, comme d'habitude, mon invité permanent, vous le connaissez, il s'appelle Jean de La Fontaine. Et comme j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Brassier, c'est un petit peu une complicité que nous avons entre nous, chaque fois que je l'invite et qu'elle accepte de venir de répondre favorablement à mon invitation, je lui demande, compte tenu de sa voix qui est tout à fait appréciée par les auditeurs de Radio Courtoisie, je lui demande de lire cette fable de La Fontaine. Nous avons retenu aujourd'hui l'avantage de la science. La fable qui s'intitule L'avantage de la science. Anne, à vous la parole.
Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différent. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? La raison m'en semble petite. « Mon ami, disait-il souvent au savant, vous vous croyez considérable, mais dites-moi, tenez-vous table, que sert à vos pareils de lire incessamment? Ils sont toujours logés à la troisième chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout laquais leur ombre seulement. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. » Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous en usons, Dieu sait, notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte. Et vous qui dédiez à messieurs les gens de finance de méchants livres bien payés. » Ces mots remplis d'impertinence eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile. Il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots. Le savoir a son prix.
Merci, charmante Anne. C'est parfait.
Et je pense... d'une actualité merveilleuse.
Absolument.
La République dépense.
Absolument, absolument. Alors, avant que de commencer par mon premier invité, qui est Monsieur l'ambassadeur Salon, je vais demander à Jean Larmande, qui a une annonce à faire, et puis je vais vous donner quelques informations supplémentaires en début d'émission. Jean Larmande.
Oui. Bonjour, chers auditeurs. Je vais vous inviter à une conférence qui se tiendra le samedi 30 mai après-midi à 14h30 dans Paris au Centre Jouffroy au nom du Cercle Algérianiste de la région parisienne. Cette conférence sera donnée par M. Vétillard, qui est né en Algérie, qui était médecin, etc., qui a écrit beaucoup sur l'histoire de l'Algérie récente. Et le thème de sa conférence, c'est « L'islam, moteur de l'action du FLN dans la guerre d'Algérie ». Et je pense que ce thème de conférence est tout à fait d'actualité, non pas à propos de la guerre d'Algérie, mais à propos de la mémoire. Et on dit toujours que quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et là, regardons d'où nous venons pour savoir où on va aller.
Eh bien, merci.
Et donc, ou bien vous me téléphonez au 06 07 34 09 60, Jean Larmande, ou bien vous envoyez un message à mariejosette.cota, C-O-T-A, donc mariejosette en un seul mot, point cota, @bboxbbox.fr.
Merci Jean Larmande. Alors, deux autres annonces de réunion, deux autres informations. D'une part, Anne Brassier, que vous avez eu le plaisir d'écouter à l'instant, va publier incessamment un ouvrage qui s'intitule « Lettres à mes petites filles », ouvrage préfacé par Guillaume de Thieulois. « Lettres à mes petites filles », cela va paraître dans quelques jours, je crois.
C'est déjà sur le site. Et la maison d'édition, c'est The Book Edition. C'est dommage que ce soit en français, en anglais.
Oui, oui.
Mais ils sont tout à fait français. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Bon. Ils ne lisent pas vos associations, défense, avenir de la langue française. C'est tout.
Et alors, une autre information. Nous allons parler avec l'ambassadeur Salon, qui a eu d'éminentes responsabilités dans le domaine de la francophonie. Je reçois également une information d'une autre association qui s'intitule Francophonie Force Oblige, dont je donne les coordonnées et qui a pour objet la défense de la langue française et de la francophonie. Donc Francophonie Force Oblige, 345 rue de la Mairie, 60-400 Appilly, A-2-P-I-2-L-Y, dans l'Oise. Voilà.
C'est une association.
Par Alain Ripaud, auteur et conférencier, président de Francophonie Force Oblige.
C'est une association, c'est la nouvelle-née.
Oui.
Et elle est très combative, elle est très, très active.
Et puis avant de passer la parole à monsieur l'ambassadeur Albert Salon, que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio qui lui est familier, puisqu'il est patron d'émission également à Radio Courtoisie, je voudrais déclarer l'ouverture de la chasse. L'ouverture de la chasse, autrefois on chassait le gaspi, moi j'invite avec Radio Courtoisie, j'invite à faire la chasse aux celles et ceux. Ça devient absolument insupportable, ce délire celles et ceux qui pullulent dans la bouche du président Macron notamment, et de bien d'autres personnes. Ce « celles et ceux » devient insupportable et marque l'incompétence, la non-connaissance de la langue française. Mais je me tourne vers monsieur l'ambassadeur.
Attendez, vous permettez, je voudrais juste oui. une chose, c'est qu'il faudrait modifier ça pour y rajouter les lesbiens et autres choses. Ils sont brimés là-dedans, on ne parle pas d'eux.
Absolument, absolument, tout à fait, oui, absolument. Cette déclaration, cette ouverture de la chasse contre les celles et ceux, qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur ?
L'ouverture de la chasse. Écoutez, il ne faut pas seulement faire la chasse aux mots. qui sont anglais ou qui sont traduits ou qui sont mal traduits, etc. Nous sommes en face, à l'heure actuelle, d'une véritable offensive qui prend une ampleur considérable depuis un certain nombre d'années. C'est une offensive organisée,
délibérée,
efficace, terriblement efficace, qui consiste à vouloir remplacer à terme notre langue nationale par l'anglais. Tout aussi clair que ça.
Oui. Mais pas exclusivement par l'anglais, puisqu'il y a ce qu'on appelle la nouvelle langue, mais il y a également l'abus des initiales. Et souvent même des initiales de phrases anglaises d'ailleurs, ou américaines.
Mais c'est l'un des moyens qui sont mis en œuvre pour justement détruire cette langue française. Mais il y a des tas de moyens, il n'y a pas que ça.
Mais si vous me permettez, il y a là-dedans l'objectif, c'est qu'on ne puisse pas savoir ce qui s'était passé avant, il n'y aura plus de transmission de la culture. Or, et là-dessus, il y a un roman, je ne sais pas si c'est de Jean Raspail, je crois, là-dessus, mais vous sur avez... le... qui se passe dans le nord de l'Europe.
Oui. Septentrion.
Oui, Septentrion.
Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous évoquiez pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui vous connaissent déjà très bien, mais davantage, j'aimerais que vous évoquiez votre parcours pour la défense de la langue française.
Parcours de la langue, oui. Le parcours commence par l'école normale primaire Auxerre.
Oui.
Voilà. Mais d'abord, je suis injuste, le parcours commence par l'école primaire elle-même d'un petit village où j'ai été élevé par ma mère. Et cet instituteur était tout à fait le modèle des anciens instituteurs que Péguy appelait les hussards noirs de la République.
Absolument.
Voilà. C'était extraordinaire. Et cet instituteur m'a appris vraiment plus encore que mon petit milieu d'origine, que je ne méprise loin de là, au contraire, je l'adore. Et cet instituteur est venu voir ma mère plusieurs fois pour leur dire « il faut que vous alliez à la ville, que vous trouviez un emploi à la ville, pour que votre fils puisse faire le lycée. » C'est tout. Voilà, le reste en découle. Le sacrifice de ma mère a fait que j'ai pu, plus tard bien sûr, sauter bien des obstacles, y compris les grandes écoles, enfin Sciences Po, etc., mais après avoir préparé une agrègue. La préparation de l'agrègue s'est arrêtée à l'examen médical qui précède le concours, en m'envoyant au sanatorium des étudiants pour me soigner ma tuberculose. Voilà. Et en sanatorium, on m'a dit, mais l'agrégation devenait très lointaine, c'était pas possible. Donc, écoute, un ami me dit, écoute, pourquoi est-ce que tu ne fais pas l'ENA ? Ah, l'ENA, qu'est-ce que c'est ? Ah ben écoute, c'est simple, tu fais Sciences Po, etc. D'ailleurs, tu as de la chance, tu peux suivre à tes écouteurs de tes cures au sein du SANA, tu peux suivre les cours retransmis par l'Université de Grenoble et son Institut d'études politiques. Bon, je vous passe tout le reste. Bref,
l'ENA étant l'École nationale d'administration.
Comment ?
L'ENA étant l'École nationale d'administration.
L'ENA étant l'École nationale d'administration.
Était. Elle est morte.
Non, elle a changé de nom.
Le reste.
Non, mais ce qui est très. Vous avez des choses capitales, c'est l'apprentissage de la langue dès le plus jeune âge, dès l'école primaire.
Voilà. Voilà. Alors, ça,
à une époque où le certificat d'études avait une certaine valeur.
Tout ce système a fait, ma mère aussi aidant, et je un hommage toujours, a fait quelqu'un qui s'est voué très jeune à l'Alliance française, à la langue française. Accessoirement aussi d'ailleurs à mon raté de langage, à l'Alliance française aussi, que j'ai beaucoup aidé dans ma carrière diplomatique. Voilà. Donc c'est ça. La langue française a joué au cours de l'histoire un rôle qui est complètement ignoré de nos jours. Et c'est une réponse que je fais à votre remarque de tout à l'heure, monsieur Larmand. L'Armande, pardon. L'histoire de la politique intérieure française et de la politique extérieure française a comme un des instruments principaux la lutte pour la langue française. Politique intérieure, d'abord, parce que, et ça commence avec Louis XII d'abord, mais surtout les gens ne connaissent que l'ordonnance de François Ier en 1539 oui. sur la langue française.
Villers-Cotterêts. Avec la fondation de l'État civil français.
Avec la fondation de l'État civil français.
Et avec un principe qui ferait bien d'être écouté
et
aujourd'hui.
Et avec autre chose que je veux.
L'épouse portera le nom du mari et l'enfant portera le nom du père. Ce qui semble complètement oublié aujourd'hui et même combattu.
Et vous citez François Ier, mais je le citerai tout dans un instant, parce que c'est aussi lui qui a traité avec la sublime porte, avec Soliman le Magnifique, le traité qui s'appelait des capitulations. Personne ne capitulait, en l'occurrence, mais ce traité très précieux pour nous et pour notre politique étrangère, c'est complètement ignoré tout ça, hein. Mais je vous le dis ça parce que j'ai fait cette thèse de doctorat d'État sur l'action culturelle.
Parce que vous vous adressez aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont avides de culture.
Voilà.
Les échelles du Levant.
Bon. Donc, ces capitulations donnaient à la France l'exclusivité de la protection des chrétiens d'Orient. Et l'Empire ottoman d'alors, il allait jusqu'à la frontière du Algérie-Maroc, n'est pas entré au Maroc. Il était déjà musulman, mais n'entrait pas au Maroc. Les Ottomans ne sont pas entrés au Maroc. Et il occupait, bien sûr, tous les pays arabes que vous connaissez maintenant. C'était sous l'Empire ottoman, tout ça. Bien. C'était donc énorme. Et dans ce pays, il y avait beaucoup de gens qui parlaient français, pas seulement au Liban, partout ailleurs, il y en avait. Et c'était des chrétiens.
Oui.
C'était des chrétiens. Qui parlait français, enfin en tout cas, qui était prêt à l'apprendre.
On peut citer quelques noms, par exemple à Smyrne, Izmir. Il y avait la famille Balladur, il y avait la famille Glavany, il y avait la famille, une troisième famille assez connue, j'ai oublié le nom, Magyar. Oui. Voilà trois familles de chrétiens d'Orient, de Turquie.
Mm-hmm. Bon.
Merci pour ce rappel. Mm-hmm. C'est... Oui. La protection des chrétiens d'Orient, c'est aussi d'actualité.
Oui.
Et les chrétiens d'Orient, ils avaient besoin de prêtres. Il se trouve que la France de l'époque, déjà, mais ça avait augmenté beaucoup plus tard, notamment au cours du XIXe siècle, la France était la principale pourvoyeuse de missionnaires catholiques depuis très longtemps. Les protestants s'y sont mis à leur tour, mais seulement en 1822. Envoyer des missionnaires protestants pour aider, etc. Donc, mais l'Empire ottoman, c'était les religieux catholiques. Il fallait les fournir, il fallait les aider à répandre, leur, si possible, leur religion, ou en tout cas à la défendre, et puis aussi à former des enfants dans leurs écoles, les écoles. Ce qui a fait une bonne partie dans notre politique étrangère de l'action, ce que j'ai appelé dans ma thèse, l'action culturelle de la France dans le monde, qui est énorme.
Absolument.
Ignorée largement, d'ailleurs.
Bien.
En tout cas, mais je reviens à la première importance, si vous voulez, de la langue française dans notre politique française, au premier rang de la politique française, ce qui a été oublié, c'est la politique intérieure. J'ai cité donc l'ordonnance de François Ier sur la langue française, mais... Pourquoi a-t-il fait ça? C'était éminemment politique, pas forcément pour soutenir la chrétienté, le catholicisme. C'était pour unifier la France.
Absolument.
Elle était déjà solidement établie, sauf quelques provinces qui n'étaient pas encore là, y compris l'Alsace à cette époque-là, bien sûr. Mais il s'agissait de conforter, de renforcer l'unité de la France, et c'était une préoccupation principale de nos rois. Ça l'a été ensuite, comme on le sait, sous la Révolution. Je vais vous citer quelque chose à propos de l'Empire turc, l'Empire ottoman que nous citions à un moment. La Convention. Notre représentant à Constantinople, sous la Convention, bien sûr, à la fin du 19e, du 17e, du 18e siècle, du 18e siècle, pardon. Le représentant du gouvernement français à l'époque, ça s'appelait pas l'ambassadeur, ça s'appelait un envoyé, écrit à la Convention en se disant « Mais qu'est-ce que je fais là avec tous mes religieux et les gens qui parlent français, leurs écoles et tout ça ? Qu'est-ce que j'en fais ?» Parce qu'il savait très bien que... Il croyait, parce que c'était pas vrai en fait, que la Révolution, et particulièrement la Convention, allait lutter à l'étranger aussi contre la religion chrétienne et ce qui allait avec. Bon. Eh bien, il reçoit la réponse suivante. Le citoyen Semonville, s'appelait Semonville, n'oubliera pas qu'en Orient, le catholicisme, c'est la nation. Voilà, vous avez tout ça. Alors après, ça a continué, bien sûr. Donc l'histoire de la politique intérieure française et l'histoire de la politique extérieure, j'y suis déjà dedans, repose là-dessus.
Alors précisément, la politique extérieure, puisque vous avez été ambassadeur et qu'il y a eu des modifications dans le monde diplomatique ces dernières années, un appauvrissement, une remise en cause, je dirais, du réseau diplomatique, est-ce que ceci n'a pas une conséquence négative sur la promotion de la langue française à l'étranger ?
Bien sûr que oui. Nos gouvernements, à l'heure actuelle, ont une action néfaste sur la langue française. Tant en France, on le constate, et je peux vous donner des exemples concrets de réels démantèlements volontaires par le gouvernement de notre langue, si vous y tenez. Mais ça risque de gêner certains, peut-être. En tout cas...
Ça ne gênera pas Radio Courtoisie.
Je l'ai déjà dit à Radio Courtoisie, ce genre de choses. Mais enfin, je sais que ça ne gênera pas. Je ne sais jamais, peut-être autour de cette table, quelqu'un n'aimerait pas que l'on critiquât notre président de la République.
Je constate que la défense de la langue française est davantage promue par des pays, notamment africains, que par les structures nationales françaises.
Nous sommes dans une très mauvaise période où nos élites non seulement ignorent beaucoup de choses, y compris l'histoire, bien sûr, et dans le sens que je vous ai indiqué, mais où on les a déshabitués, on a déshabitué les Français, je vous expliquais pourquoi et comment, à partir de 1974, on les a déshabitués de l'importance de la langue française, de l'importance de nos fondamentaux, de l'importance aussi, par la même occasion, de notre indépendance politique. Vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé à ce moment-là, en 1974 ?
Oui.
Il y a plus d'un demi-siècle. C'est le début d'un demi-siècle, je vais vous décrire, qui a été néfaste. Je rejoins ce que nous disions il y a un instant. Vous verrez le caractère tout à fait néfaste de ce demi-siècle introduit en 1974. Mort de Pompidou, Giscard arrive. Giscard, premier geste, conférence de presse. Sa conférence de presse comment ? Moitié en anglais. Le signal était donné. C'était un signal donné. Il est passé presque inaperçu, ce signal, à l'époque, parce que tout le monde était encore, je dirais, dans le confort de prospérité et de puissance française qui s'était manifesté, si vous voulez, dans la période entre 58 et 74, évidemment. Alors, au fond, les gens croyaient, y compris nos élites, que ça allait continuer comme ça. On n'a pas senti qu'il y avait dans ce discours de Giscard quelque chose d'un changement fondamental. Le système était au pouvoir et commençait à dire, les enfants, il faut cesser avec vos idées de grandeur et tout ça, il faut s'aligner sur l'Empire. Il faut considérer que l'anglais est maintenant une langue qu'il faut beaucoup plus parler que vous ne le faites, pauvres ignorants. Et il faut se mettre à comprendre que la politique et ce que vous appelez les fondamentaux, etc., et cette langue française, etc., tout ça, ça fait partie d'un passé. Et que l'avenir est maintenant à l'économie et aux finances. C'est-à-dire un demi-siècle de considération que l'économie et les finances étaient l'essentiel de la politique s'est imposée et s'est manifestée progressivement encore plus, même sous un homme comme Mitterrand, très cultivé, beaucoup plus cultivé que ses successeurs et même partie de ses prédécesseurs, étonnamment cultivé, oui, qui était sensible à tout ça, mais qui politiquement n'a pas jugé bon de se servir de ces arguments-là que nous voudrions maintenant faire adopter par nos candidats à la présidentielle.
Peut-être que nos dirigeants...
Mitterrand a fait baigner notre France dans ce climat, qui était donc de revassalisation, parce que De Gaulle nous avait sorti de la vassalisation à l'Empire. Mmh. On revassalise avec Giscard, et on considère que l'anglais, maintenant, devenait une chose primordiale.
Et l'obligation des enfants.
C'est-à-dire ?
Les obligations d'apprendre aux enfants l'anglais dès la maternelle.
Mais oui, bien sûr.
C'est généralisé dans toute la France.
C'est ce qui a commencé à partir de 1974. Ce n'était pas dès 1974, mais c'était l'esprit de 1974 qui s'est étendu et qui a dominé jusqu'à ce que vous connaissez maintenant. Bon, c'est épouvantable ce qui s'est passé.
Mais peut-être on a peut-être une raison d'espérer que l'anglais disparaisse du discours de nos dirigeants, parce que peut-être que la démographie va remplacer l'importance de la finance et de l'économie pour être remplacée par la langue arabe, peut-être, par nos dirigeants.
Oui, bon, ça fait partie de votre humour, mais très bien. Mais je reviens...
Ça va être plus dur.
Je reviens à ça. Cela dit, la démographie est inquiétante. Beaucoup de choses sont inquiétantes dans la France d'aujourd'hui, et notamment parce que on a démantelé la France.
Absolument.
Et pas seulement sa langue. Mais je peux vous donner des exemples très concrets sur sa langue. J'ai essayé de les diffuser dans la presse. Ça n'a pas été reçu. Et j'avais envoyé bien sûr au président de la République d'abord. Dès le début, en lui disant attention, parce qu'il y avait eu l'Allemagne, Berlin, son discours uniquement en anglais, pour se présenter aux Allemands comme candidat à la présidence française. Enfin, il y avait tout ça, tout ce qui allait, que vous savez, etc. Donc, on l'avait, très poliment et naturellement, très diplomatiquement, les lettres étaient bien écrites, polies. Averti. Et puis ensuite, lorsqu'il a fait ce que je vais vous indiquer, nous l'avons vraiment dénoncé dans une lettre où il y avait les mots forfaiture et trahison. Bon, ici, il avait cherché à se venger, c'est pour ça que j'ai été obligé de démissionner. Ce n'était pas l'association qui me mettait dehors, j'ai démissionné pour qu'elle pût continuer, mon association Avenir dans la langue française, pour qu'elle pût continuer à percevoir sa subvention d'État, d'ailleurs très maigre, ridicule, mais enfin bon, sa subvention, et surtout à garder son agrément pour pouvoir faire des procès.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, mais je voudrais quand même que vous évoquiez rapidement votre implication à Radio Courtoisie, justement à partir du moment où vous n'aviez plus de fonction diplomatique, vous vous êtes engagé à fond pour cette défense de la langue française au micro de Radio Courtoisie. J'aimerais que vous l'évoquiez.
Oui, est-ce que c'est vraiment intéressant pour nos...
Pour nos auditeurs, qu'ils vous ont...
C'est le récit de vos actions, de toute façon.
Comment ?
C'est le récit de vos actions.
Oui, merci de m'aider. On va bien se réconcilier, on s'était fâché à un moment. Non, pardon, excusez-moi.
Ah bon ? J'ai oublié.
Non, mais légèrement, rassurez-vous. Bon, non. Radio Courtoisie. Je suis venu à Radio Courtoisie parce qu'on m'y a invité d'abord pour parler du bon usage de la langue française.
Voilà.
Bon, d'accord. J'ai fait ça avec une personne très très aimable qui très vite, elle était un peu âgée, elle a passé le relais, elle m'a voulu passer le relais à moi. Mais je lui ai dit, écoutez, d'accord, j'ai dit ça aussi à Jean Ferré, quand on m'a présenté à Jean Ferré. Ah, écoutez, je veux bien, mais moi, le bon usage, je veux bien continuer à en parler, mais à condition que ce soit une petite partie seulement de ce dont je veux traiter à Radio Courtoisie, c'est-à-dire la politique de la langue.
Oui.
Aucun problème. Aucun problème. Et deuxième chose, je veux pouvoir dire ce que je veux. Je suis gaulliste, mais très ouvert. Je ne suis pas ni droite classée, ni extrême droite classée comme telle.
Ni extrême gauche.
Surtout pas non plus.
Assurez-nous.
Surtout pas, encore moins, si vous voulez, encore moins, voilà. Bon, vous êtes satisfait que là, encore moins. Bien. Donc, vous voyez, il m'arrive à 91 ans de perdre un petit peu le fil.
Vous avez trouvé un espace de liberté pour parler de la politique.
Oui, voilà, c'est ça, la politique de la langue française. Donc, et puis c'est ce que j'ai fait, naturellement. C'est ce que j'ai fait et il me semble que ça a été un peu suivi, heureusement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai cherché à montrer? À chaque fois, la progression d'avenir de la langue française dans cette affaire, où nous avons réussi un certain nombre de choses, y compris, tiens, nous parlions tout à l'heure de Villers-Cotterêts et de l'ordonnance. J'avais utilisé Avenir de la langue française pour dire il faut faire Villers-Cotterêts.
Bien sûr.
Il faut faire à Villers-Cotterêts un grand centre international
de la langue française
et de la francophonie. Moi, je n'oublie jamais à ajouter francophonie. Vous n'avez pas ajouté ça tout à l'heure quand vous avez cité le titre du Haut Conseil. Alors,
Alors, vous avez créé récemment. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, c'est le titre que j'ai indiqué en début d'émission. Vous avez créé récemment le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie.
Oui, mais à l'époque, vous m'avez interrompu, là, je triche.
J'ai parlé de...
Je parlais d'une première création importante qui était, mais elle m'échappe encore... On va être obligé de revenir à celle que vous...
La politique de la langue française.
Politique de la langue française. Oui, Villers-Cotterêts, voilà. L'affaire Villers-Cotterêts. Mmh. Alors, nous avons fait une grande réunion à Villers-Cotterêts, avec beaucoup de gens qui étaient là, d'ailleurs, très curieux, dans la cour du château, pour faire le programme de cet institut. Et puis c'était en 2001, en octobre 2001, le 7 octobre 2001 très exactement, les dates me restent encore alors que les noms filent une bonne partie du reste de la mémoire. Donc j'en restais plus longtemps à Radio Courtoisie. Bien, en tout cas, Villers-Cotterêts a été ainsi annoncé, on l'a présenté à chaque nouveau président de la République ou gouvernement qui se présentait, et puis c'est seulement en 2017, c'est-à-dire 16 ans après, mais après avoir insisté à chaque fois, au point que de se faire un peu moquer par des collègues qui, au début, étaient partisans aussi de ça. 2017, c'est le couple Macron qui accepte le projet.
La science et longueur de temps.
Je dis bien le couple. Passe le détail. Alors, Macron l'a ensuite annoncé lors de la journée de la francophonie, une autre journée après, excusez-moi, une autre journée en 2017, voilà. Il l'a annoncé comme ça. Puis ensuite, il l'a repris dans son discours à l'Académie française à l'occasion du 20 mars 2018. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Grande conférence, grand tralala, toute la presse, etc. Macron présente sa politique de la langue française et de la francophonie. Avec d'ailleurs les documents que nous lui avions fournis. Et il les cite honnêtement, et bien, toujours très bien dans les discours. Et la dernière partie était consacrée à Villers-Cotterêts, où il l'annonce en reprenant nos têtes de chapitre de notre programme de 2001.
Sans le traduire en anglais.
Comment ? Sans le traduire en anglais. bien sûr. Bien, donc Villers-Cotterêts, c'est ça. Il a eu le mérite de faire ça. Mais ensuite,
mais je
nous
suis
le soupçonnons. Allée, mais attendez, oui. Attendez, ne m'interrompez pas trop parce que je vais...
Oui. Si, m'interrompez. C'était sur Villers-Cotterêts.
Mais pas quand j'ai commencé une phrase, parce qu'après, oui. ma mémoire me dit...
T'as oublié, mon vieux. Très bien.
Bon, alors vous vouliez dire quoi?
Ben, je voulais votre avis, monsieur, sur Villers-Cotterêts. Je ne voulais pas finir,
oui,
clôturer le sujet alors. Villers-Cotterêts. Je suis allée à Villers-Cotterêts et probablement que les fonctionnaires à qui on a confié ce musée étaient passablement, curieusement intentionnés. On a donné, alors on a bien parlé de ceux qui avaient instauré la langue française, les Français du 17e, merveilleux. Et puis les contemporains, nous avons droit à des vidéos de francophones de pays X, Y et Z qui se plaignent parce que la langue française a été un élément d'oppression de la colonisation. Alors là, les bras vous en tombent, vous comprenez ?
Alors, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça. Je vous remercie de m'avoir interrompu. Alors, vous êtes chargé de me rappeler ce que j'aurais dû dire à ce moment-là.
Hein, bon.
Villers-Cotterêts a été naturellement trahi, mais je commençais à dire que ça a été conçu, Villers-Cotterêts, accepté et fait, et merveilleusement fait, c'est merveilleusement restauré le château,
hein,
honnêtement,
beau.
C'est très bien, formidable même.
Bon. Très beau.
Et le musée qui est dedans, il est bien fait, sauf que c'est là qu'est le diable dans l'affaire, c'est qu'on y fait de la propagande presque anti-française.
Donc c'est...
Voilà, mais attendez, laissez-moi, pendant que j'ai encore mon fil... Mais rassurez-moi, j'en abuserai pas, mais puisque vous me mettez dessus, je vais y aller. Villers-Cotterêts a été en fait une trahison. Il était conçu pour quoi ? Dans le cadre du « en même temps », il fallait, sachant que Macron allait, que, sachant le président, sache pas le président, pardon, de temps en temps il faut dire président, le président, sachant qu'il allait être critiqué fortement sur... son emploi du français et ce qu'il en faisait, a dit il faut quelque chose qui en même temps fait le contrepoids. Eh bien, tu as raison, ma femme, on va faire Villers-Cotterêts. On va faire Villers-Cotterêts. Il l'a fait magnifiquement. Bon, mais ça a été trahi parce que d'une part, il s'est passé ça, et puis ensuite, notre programme, mais le programme qu'il avait annoncé, dont il avait repris les têtes de chapitre, complètement négligé, évidemment. Ce n'était pas fait pour ça. Villers-Cotterêts était fait uniquement pour ce que je vous ai dit.
Oui.
Bon, alors, le programme, complètement... Et Villers-Cotterêts, il y a bien le musée, il est vide. Mais pas le musée, pardon, mais le reste. Il y a 23 000 mètres carrés de surface utile au château. Il y en a 2 000 et quelques qui sont utilisés au centre, là, pour le beau musée. Beau musée, j'insiste sur beau, il est beau. Il faut être honnête. Mais le reste, il est vide. Nous le prévoyons complet, bourré, etc. Bien. Bon. Il est vide. Alors que Macron avait commencé à... C'est pour ça qu'on l'avait critiqué, bien sûr. A essayé de tuer la langue française, d'une part, dans l'Union européenne, après le Brexit. Il n'a pas, comme on l'avait supplié, fait un désaveu d'Ursula von der Leyen, notre ennemie. D'Ursula von der Leyen, qui avait mis l'anglais comme langue commune, profitant du Brexit, on dit on ne va pas abandonner l'anglais comme ça, on va mettre au contraire l'anglais langue commune, et illégalement par rapport au traité européen et au règlement de linguistique, bien sûr. On va garder l'anglais.
Bien, ben écoutez, chers amis, vous écoutez le thème, une émission donc, dans le cadre du Libre Journal de Michel de Rostelan, vous écoutez une émission sur le thème « Trahi par les élites, la francophonie, vecteur historique de la puissance française dans le monde ». Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Anne Brassier, écrivain et critique littéraire, Monsieur l'ambassadeur Albert Salon, que vous venez d'entendre, président fondateur du Haut Comité, du Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, Pierre-Luc Faret, écrivain, délégué général de la Société française de géopolitique, et Jean Larmande, secrétaire général du Cercle Renaissance et de la Société française de géopolitique. Et je vais peut-être me tourner vers Pierre-Luc Faret, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'intitule « Ces Français qui gouvernèrent le monde », ce qui rejoint d'ailleurs la dimension diplomatique de l'ambassadeur Albert Salon. « Ces Français qui gouvernèrent le monde » et qui donc ont exporté d'une certaine manière, ont fait rayonner la langue française dans le monde, avec parfois des succès plus grands dans les pays concernés que au sein même de la France hexagonale. Pierre-Luc Faret.
Oui, qu'il me soit permis de dire à l'ambassadeur Salon, qui a parlé de la langue française perçue parfois comme un outil d'oppression, notamment en Afrique occidentale, centrale. Je rappelle que les opposants à la France, ils s'appelaient El Hadj Omar, ils s'appelaient Samori, ils s'appelaient Béhanzin, ils s'appelaient Rabat au Tchad. Tous ces gens-là, je dis bien tous,
africain.
Étaient tous des chasseurs d'esclaves. Musulmans pour la plupart, Béhanzin était animiste, on dirait vaudou aujourd'hui. Je rappellerai que le dernier marché aux esclaves d'Afrique du Nord a été fermé en 1912 par le maréchal Lyautey, qui était, je crois, de l'armée française, si mes souvenirs sont bons. Donc, les valeurs occidentales, les valeurs françaises qui ont été envoyées en Afrique, je pense qu'il serait bon de rappeler les plus traditionnelles à côté de celles qui, aujourd'hui, sont effectivement mises en exergue et qui, à longueur d'antenne, et qui sont perçues par la majorité de la population mondiale comme étant en train de détruire l'Occident. Et donc, on peut comprendre qu'il y a un rejet de certaines valeurs occidentales. Il y en a d'autres, de beaucoup plus traditionnelles, et qu'il serait bon de rappeler de temps en temps. Sur le sujet, pardonnez-moi de cette petite digression, il y a eu effectivement des périodes dans l'histoire dans lesquelles la langue française a été étendue par les Français qui sont partis.
Tout à fait.
Alors, ça peut être l'Europe. On peut penser évidemment aux Anglais après la conquête normande, et je dirais franco-normande, plus précisément. Je rappelle que Guillaume le Conquérant, il lui restait plus que à peu près 16% d'ascendance viking. Le reste, c'était du bon français, bien comme il faut. Ensuite, après les rois normands, il y a eu Étienne de Blois, les Plantagenets. Tous ces gens-là ont amené des Français, et avec les Français, la langue française. Il y a eu d'autres épisodes.
Le français, il y a eu langue internationale.
Oui, tout à fait.
Et langue de référence également pour le Saint-Siège.
Pour le Saint-Siège, et rappelons aussi la place spécifique du roi de France, qui était perçu dans les réseaux diplomatiques comme étant, j'ouvre les guillemets parce qu'aujourd'hui ça pourrait prêter à sourire, au-dessus des autres rois, tout autant que les autres rois sont au-dessus du commun des mortels. Fermez les guillemets. C'est pas moi qui le dis, ce sont des ambassadeurs vénitiens qui avaient répondu ça au roi d'Espagne, qui avait été passablement vexé par ce genre de rappel juridique. Je passe. Il y a eu d'autres périodes, il y a eu le frère de Saint-Louis qui a amené dans le sud de l'Italie, dans ce qu'on appelait le royaume de Sicile, parce que le titre royal se rattachait à la Sicile. Il a fendu quelques crânes en cours de route, mais enfin, il est quand même arrivé dans le sud de l'Italie. Il a amené 4500 familles françaises, à laquelle il a donné tous les pouvoirs, du ministre jusqu'au ce qu'on appellerait peut-être le garde champêtre, mais en fait
c'était du français, c'était les hautes villes.
C'était du français bien oui. De chez nous, oui. Du Val de Loire d'abord parce qu'il était duc d'Anjou, et de Provence parce qu'il était aussi comte de Provence. Il y a eu d'autres périodes, il y a eu on peut citer le fait que le roi de France, Louis XIV, ait réussi à placer son petit-fils, Philippe V d'Espagne, comme roi donc des Espagnes et des Indes en même temps, de ce qu'on a appelé les Indes. Philippe V, quand il est arrivé, il ne savait pas trop comment gouverner. Il a reçu l'aide de nombreux, on dirait hauts fonctionnaires français aujourd'hui, en tout cas de conseillers, qui ont formé sa garde rapprochée. Il faut savoir qu'au début du règne de Philippe V en Espagne, il y avait pratiquement que des Français qui gouvernaient l'Espagne et l'Empire espagnol d'Amérique. Ça n'a pas duré pendant tout le règne, mais pendant un certain temps. Ça a entraîné un certain nombre de transferts linguistiques. Il y a eu, on peut citer également, nous sommes sur Louis XIV, nous pouvons parler des Huguenots qui ont été chassés du royaume. Les gens qui ont été chassés, ben, il fallait qu'ils trouvent un moyen de subsistance. Beaucoup sont engagés dans l'armée. Entre parenthèses, ce sont eux qui ont fondé l'armée prussienne telle qu'on la connaît. Et lorsqu'on lit ce qu'ils disaient sur l'armée prussienne, ils disaient « c'est une ramassie de feignants qui n'ont aucun sens de la discipline, on va mettre un peu d'ordre à tout ça ». On en a su quelque chose plus tard. Bref, mais on pouvait rentrer dans l'armée, mais il y avait aussi beaucoup de ces Huguenots qui se sont placés comme précepteurs dans les petites principautés d'Allemagne.
Exact.
Voilà. La fameuse dictée de Mérimée, le grand gagnant a été le prince de Metternich, chef du gouvernement autrichien de l'époque où l'Autriche, c'était quand même une des plus grandes puissances d'Europe. Celui qui a fait le moins de fautes, c'était le prince de Metternich. Deux fautes, dont la faute des fameux cuisseaux qui restaient depuis. On peut parler de la langue diplomatique, bien sûr. On peut parler
en Russie aussi.
En Russie, j'ai entendu, j'en ai parlé récemment à l'ambassadeur Salon, un enregistrement de Nicolas II, dernier tsar de Russie, il parlait un français indétectable, pas le moindre accent étranger. On peut parler aussi, on va parler bien sûr sans doute de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Un jour, le Mozambique a tapé à la porte de l'OIF. Alors on s'est demandé pourquoi. Le Mozambique, c'est quand même coincé entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Bon, quand même, bon. Pourquoi est-ce que le Mozambique frappé à la porte d'une organisation francophone, et bien parce que le Mozambique était une ancienne colonie portugaise, qui est devenue administrativement une province du Portugal, et étant une province du Portugal, elle suivait les programmes du Portugal. Logique. Salazar et son successeur, quand ils ont vu les programmes, Caetano, effectivement, Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on apprend comme langue étrangère? L'anglais, bon, oui, d'accord, mais enfin, les Portugais, ils vont vers où quand ils émigrent? Et ils émigrent beaucoup. On a beaucoup de nos concitoyens qui émigrent. L'Espagne, c'était pauvre à l'époque. Il n'y avait pas encore les tombereaux des fonds européens payés par la France et l'Allemagne. Donc, ils allaient en France. Donc, ben, le Portugal, ben, on apprenait le français au Portugal. Au départ, plus que l'anglais, d'ailleurs. Et les provinces du Portugal, y compris les provinces africaines, apprenez le français.
Eh oui.
Voilà, on n'y pense pas, c'est un peu à l'autre bout du monde. Mais il y a eu des épisodes comme ça où le français a progressé par des raisons X ou Y, parfois le chef de l'État qui est placé. Lorsque Bernadotte arrive en Suède, il est...
Vous parliez de chef de l'État, j'avais des liens, je l'avais reçu dans le cadre du Cercle Renaissance avec le président de la République sénégalaise, Abdoulaye Wade, et qui lui-même revendiquait le maintien et l'appartenance du Sénégal dans ce qu'il appelait la plus grande France. La plus grande France, il écrivait dans un français parfait, le président Abdoulaye Wade.
C'était une appellation forte à la fin du 19e siècle, la plus grande France.
La plus grande France. Et alors je voudrais, d'ailleurs en présence de l'ambassadeur et de Pierre-Luc Farré, je voudrais quand même rendre hommage à plusieurs personnalités qui se sont battues pour la langue française, des personnalités contemporaines. Je pense en particulier, nous en parlions tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, à Philippe Rossillon.
Philippe Rossillon.
Bien sûr. Je pense également à Xavier Degnaud.
Très grand
Xavier
personnage.
Degnaud, lorsque j'étais moi-même député, Xavier Degnaud, j'avais été nommé, sur injonction d'ailleurs de Xavier Degnaud, vice-président de l'AIPLF, c'est-à-dire l'Association internationale des parlementaires de langue française. Et puis je voudrais citer, avec une grande révérence, je voudrais citer l'archiduc Otto de Habsbourg. Parce que l'archiduc Otto de Habsbourg a eu une préoccupation constante, c'est que ses enfants et ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants apprennent le maximum de langues étrangères, et il m'écrivait qu'il leur revendiquait pour le Parlement européen dont il était membre, il revendiquait que la langue de référence du Parlement européen soit la langue française, car étant la plus proche de la latinité. Je cite exactement les mots de l'archiduc Otto de Habsbourg, parce qu'actuellement, il n'y a pas de langue de référence au Parlement européen. Il y a une multitude de traducteurs, mais lui a demandé... alors vous me direz que, évidemment, sa mère était une Bourbon-Parme. Mais il a défendu mordicus la langue française. Alors, Pierre-Luc Farré...
Vous parlez de Otto de Habsbourg, je suppose que vous faites allusion à Otto de Lorraine d'Autriche. comme sa famille s'appelait à l'origine. Et vous avez rappelé que sa mère était une bonbon Parme.
Absolument. De Lorraine Habsbourg, vous avez tout à fait... Habsbourg, l'autre...
De Lorraine d'Autriche, au départ.
Oui, oui, oui.
Mais,
Jean Larmande.
Mais juste une précision, c'est que la qualité de la langue française est aussi sa précision, etc. Et je me souviens toujours qu'on avait une amie d'enfance de mon épouse qui était haut fonctionnaire à l'ONU, et qui disait, mais si la référence des traités ou des accords était la langue française, beaucoup de choses seraient plus faciles. Et elle citait en particulier l'accord, ou une décision, je ne sais plus, sur les territoires occupés de Palestine, et en disant, en français, on aurait dit des territoires ou les territoires, alors que là, en anglais, on dit « occupied territories », et c'est une imprécision remarquable.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors là, voilà un exemple absolument frappant. Vous allez écouter, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un rappel de Radio Courtoisie, précisément.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Pierre-Luc Farret, est-ce que vous aviez votre combat actuel dans le cadre de vos responsabilités de délégué général de la Société française de géopolitique, vous incluez évidemment la défense de la langue française, puisque vous avez récemment, lors de votre dernière réunion, vous avez précisément invité monsieur l'ambassadeur Salon. Mais j'aimerais que vous évoquiez un peu justement cette prise en compte de la francophonie comme vecteur de puissance française.
La francophonie, bien évidemment, est un facteur d'influence énorme. D'ailleurs, monsieur l'ambassadeur me disait que on soutenait très mollement, en tout cas sur le plan financier, les alliances françaises. Et d'autres pays s'y engagent à fond, à fond. Goethe Institute, Confucius, l'Institut Confucius des Chinois, ils mettent des fonds considérables.
Énormes.
Les Allemands, le Goethe Institute.
Énorme.
De nombreux pays utilisent ce vecteur de puissance, ce vecteur d'influence. Et la France, il faut bien le dire, elle réduit notre réseau diplomatique qui était quand même le deuxième au monde.
Absolument.
Est devenu le troisième.
Oui. Et le réseau culturel, de l'action culturelle, c'était énorme. Et il a très beau reste, mais progressivement, les crédits donnés par l'État diminuent d'année en année.
Et ça me rappelle une réunion pardonnez-moi, je ne me rappelle plus exactement qui c'était, mais c'était du style l'année Voltaire ou quelque chose comme ça. Grande réunion internationale. L'ambassadeur d'Allemagne a dit « Nous avons mis tant d'argent pour l'année Voltaire. » L'ambassadeur d'Espagne « Nous avons participé, etc. » Et tout le monde se tourne vers l'ambassadeur de France qui, eux, n'avaient rien dépensé du tout. Rien du tout. L'ambassadeur s'en est tiré avec une magnifique phrase. Il a dit « La France a fourni Voltaire ». C'était bien trouvé, c'était ce qu'il fallait, mais enfin quand même. Derrière ça, il y avait quand même le fait que l'influence, les vecteurs d'influence sont largement sous-utilisés. Il y en a d'autres. On va essayer d'en parler à certaines personnalités où la France prend du retard alors qu'elle a un potentiel historique largement supérieure à celle d'autres pays,
oui,
notamment d'autres pays européens.
Exact, tout à fait. Je me rappelle, mais c'était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, je me rappelle qu'un certain nombre de pays avaient, grâce au relais de la poste française, avaient maintenu le nom de poste en français sur leur timbre. C'était en particulier le cas de la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan. La République de Chine maintenait le terme de poste.
Alors là, il y a une raison historique, c'est qu'au moment de ce que les Chinois appellent le siècle d'humiliation, il y a eu un partage de la Chine en zones d'influence, les concessions, etc. Je vous passe les détails, mais il y a eu également les grands organismes publics.
Oui.
Les Anglais, par exemple, avaient la douane.
Oui.
On les retrouve toujours quand il y a une affaire d'argent. N'oublions pas que parmi les Britanniques, il y a les Écossais qui ont une réputation assez marquée en la matière. Les Français avaient...
Le réseau postal.
Le réseau postal. Et aussi également la gabelle.
Oui.
Terme un peu tombé en désuétude, je crois, en France ces derniers siècles. Mais enfin, il y avait un droit de gabelle dirigé par des Français en Chine. Et il y avait également donc le service postal.
Service postal,
ce qui permet, bien entendu,
c'est étonnant.
Chacun sait, ça permet également d'avoir une tonne de renseignements, parce que c'est par la poste que passaient énormément de choses.
Bien sûr. Alors je vais me tourner cette chère Anne Brassier, que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio qui lui est familier. Ma chère Anne Brassier, alors d'une part, vous allez publier incessamment cet ouvrage qui s'intitule « Lettres au pluriel, lettres à mes petites filles », préfacé par Guillaume de Thieulois. J'aimerais que... Alors, vous avez toujours eu le souci, bien évidemment, de la langue française. Vous avez organisé des signatures d'auteurs français à la fois sous les sapins, sous les pommiers, enfin, différentes régions de France.
Les platanes.
Avec un grand succès, et je vous en félicite. Vous avez été vous-même lauréat, d'ailleurs, du prix Renaissance en son temps. Vous aviez écrit...
Grand souvenir.
Voilà, un bon souvenir. Et puis, qui vous avait remis le prix, d'ailleurs ?
Serge Dalins.
Qui ?
Serge Dalins.
Serge Dalins, voilà, Serge Dalins. Un grand ami de Serge Dalins.
Et un très bel écrivain.
Un très bel écrivain.
Très bel écrivain.
Celui qui avait écrit Le Prince Éric.
Oui.
Alors, j'aimerais vous entendre, enfin, les auditeurs aimeraient vous entendre, ma chère Anne Brassier, sur ce thème de l'émission « Trahi par les élites, la francophonie, vecteur historique de la puissance française dans le monde ».
Alors, j'ai pas mal voyagé, pas assez en Europe, mais j'ai vu, par exemple, à Prague et à Varsovie, les centres culturels. Donc, je lèche la vitrine et je m'aperçois que les écrivains proposés, les écrivains invités, ce sont des gens qui n'écrivent pas la plus belle des langues et qui ne représentent pas la littérature française. Dans ces centres, on a évacué tout le fond culturel français. Et puis, question de parler de La Fontaine, de Corneille et de Racine, non. On donne ce que j'appellerais la mauvaise came d'aujourd'hui. Donc,
C'est pas faux.
Merci. Et ça, c'est quand même assez triste. Et puis, je voudrais, pour répondre aux braves gens qui travaillent à Villers-Cotterêts et qui ont donné la parole à des gens qui nous crachent dessus, il faut bien le dire, que la présence française a été éminemment bénéfique. D'une part, pour des raisons d'unité en Afrique, on ne se comprenait pas d'une région à l'autre parce qu'ils avaient des dialectes différents. Donc le français a été un vecteur d'unité merveilleux, premièrement. Et deuxièmement, il y a eu des prêtres, et j'ai connu le cas en Martinique, des prêtres qui ont fait, et ça s'est passé ailleurs, des prêtres qui ont fait des grammaires de la langue locale pour permettre à cette langue de se développer, de s'organiser et d'être instruite et donnée aux enfants, ce qui est quand même extraordinaire.
Moi, j'ai un souvenir comme ça.
Jean Larmande.
Aux États-Unis, j'étais à Harvard pour une réunion et puis il fallait que j'aille chercher un médicament, donc je prends un taxi, puis je discute un peu avec le chauffeur de taxi qui me dit « Mais de quelle langue parlez-vous » Parce que je parle anglais avec un accent français. « Vous êtes allemand ?» Je dis « Non, non, je suis français. » Et aussitôt, il a basculé sur le français en parlant un français parfait. Ouais. Et je lui dis « Mais d'où venez-vous » Alors il me dit « Une des îles des Antilles, mais pas française. » Je lui dis « Ah oui, c'est la langue officielle. » Il me répond en disant « Non, c'est une langue vernaculaire. » Mais le mot vernaculaire, je l'ai testé avec mes petits-enfants en France. Oui. Aucun n'est capable de dire ce que ça veut dire.
Bien sûr. Bien
ça
sûr.
Devait être la Dominique ou Sainte-Lucie, a priori.
Je ne me souviens plus.
Oui, le dialecte local, je ne veux pas parler de patois, mais le dialecte local est fortement français.
Quant à l'influence effroyable de l'anglais, c'est ce que, ça fait partie de cette politique de... souligné et très très bien intitulé par Alain de Benoist, c'est l'idéologie du même. Nous devons tous porter le même jean, la même basket, la même casquette et parler la même langue. Donc les identités, adieu. C'est bon pour le commerce finalement. C'est la seule définition. Mais les progrès de l'anglais, moi je les vois parce que je réagis frénétiquement à ça. C'est pour moi, ce sont des agressions.
Ce sont des agressions organisées. Oui. C'est une offensive
absolument
générale.
À Toulon, il y a eu une cérémonie récemment en l'honneur de la marine française. Et les grands panneaux publicitaires, sur ces grands panneaux, étaient marqués « Defense Event Toulon ».
Mais savez-vous comment s'appelle le journal de la région Île-de-France ?
Non, je ne sais pas.
Ça s'appelle Paris Region.
Ben évidemment, évidemment.
Hein, j'étais moi-même pendant 18 ans conseiller régional d'Île-de-France. Je me suis battu, comme je l'ai fait dans toutes les assemblées où je siégeais. J'ai toujours combattu ces anglicismes ainsi que l'usage abusif des initiales. Mais c'est invraisemblable que le journal de l'Île-de-France s'appelle Paris Region.
Alors, c'est le moment de parler de ce député qui avait déposé une loi pour interdire le cinéma. Tout bon, quand même, il y a une loi. Alors, on s'assoit sur ces lois, oui ou zut ?
Bien sûr.
C'est quand même incroyable. Les films gardent leur titre anglais, c'est aucun problème. Je suis à la caisse d'un Carrefour quelconque et je vois les journaux de cuisine pour les acheteuses. Je regarde, il s'était marqué « best of ».
Oui.
« Best of hein, », les meilleures recettes donc. Mais pourquoi pas les meilleures recettes ? Alors j'ouvre le journal et je me dis « le journal est peut-être... anglo-saxon, anglais ou américain, pas du tout, il était basé à Boulogne, 92. Mais c'est comme ça, non-stop, tous les grands magasins, non-stop, c'est tous les grands magasins font leur pub en anglais, où ils mêlent le franglais,
tout à fait.
En fait, c'est du franglais, et ça vraiment c'est affreux.
Mais regardez le titre de la réunion qui a lieu actuellement sur la francophonie avec notre président de la République. Le titre est en anglais, cette réunion. Je ne sais plus.
Non, c'est vraiment une. Enfin, si, c'est un suicide total, quoi, c'est tout. Hein.
Un assassinat.
Un assassinat.
C'est un assassinat.
Oui.
Il y a un assassinat et un assassinat au plus haut niveau du gouvernement. Voilà. C'est-à-dire au président de la République. Je peux vous citer, si vous le voulez, trois choses brièvement. Trois crimes commis par notre président de la République. C'est patent, c'est prouvé, c'est sûr. Voilà. Premier point, Brexit arrive 2020. Le Brexit, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais je continue là-dessus. Le Brexit, pas question d'abandonner l'anglais. On garde l'anglais, on en fait même. Ursula von der Leyen en fait, toute seule comme une grande, alors que c'était au Conseil européen d'en décider, et pas à elle, présidente de la Commission. On fait l'anglais langue commune. Voilà, très bien. Alors, surtout ce qui se passe chez nous, là, à ce moment-là, on prévenu, averti, enfin, tout ça, vis-à-vis de Macron, il ne s'est rien passé, y compris alors que il avait fait répondre par son secrétaire d'État chargé des affaires européennes, qui était, bon, je ne sais plus qui à l'époque, mais enfin, vous voyez à peu près, il nous avait fait répondre que, vous inquiétez pas, on y veille. Et lorsqu'au premier semestre 2022, qui sera le tour de la France pour présider le Conseil européen, vous verrez ce que nous aurons réagi et contré Ursula von der Leyen. Bon, j'y croyais pas. On verra. On a vu, il ne s'est rien passé. On nous l'avait écrit pourtant. Rien passé. Alors, nous avons réagi, comme vous le savez. Donc, Macron a été responsable du fait que le français, pas tout à fait complètement, mais a largement disparu de l'utilisation quotidienne du français, donc, au sein des institutions, de toutes les institutions de l'Union européenne, de la fameuse UE. Premier point, énorme, énorme. Deuxième chose. Jeux olympiques de Paris en été d'il y a deux ans, 2024. Jeux olympiques, je vous passe sur la cérémonie d'ouverture, terrible, horrible.
De triste mémoire.
On nous avait au printemps, donc nous sommes en été, les Jeux olympiques, mais au printemps précédent, on a vu paraître dans les journaux des articles de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, annonçant que, c'est-à-dire dépendant du ministère de la Culture, mais donc du président de la République, annonçant qu'on allait voir ce que l'on allait voir aux Jeux Olympiques. C'était très net de les voir. Le français, il a deux raisons d'être dominant aux Jeux Olympiques. Un, il est la langue officielle depuis
Coubertin.
Oui. Deux, il est la langue du pays hôte.
Bien sûr, oui.
Bien sûr, à Paris, et voilà. c'était essentiel. Et l'anglais ne serait en l'occurrence que la troisième langue, qui était en fait devenue la première de fait dans le coutumier, je disais, dans le quotidien des institutions européennes et ailleurs. Bon, mais enfin, voilà. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir. Non seulement on n'a rien vu, mais le défilé, comme vous le savez, c'est coquin. Le défilé, en bateau, il y avait les pancartes indiquant quelle était la délégation, chacune à chaque bateau. On a vu le milliard de téléspectateurs qui suivaient les Jeux n'ont vu que l'un des côtés du bateau. Il y avait des pancartes en anglais sur un côté et en français sur l'autre.
Ah oui.
Ils n'ont vu que les pancartes défilant en anglais. C'est un détail. Bon, à la limite, on évoque une erreur.
Il y a des détails qui ont leur importance.
Je crois pas à l'erreur, hein. Je crois pas. Bon, les caméras, la télévision était du côté où les panneaux, les pancartes en anglais passaient. Bon, voilà, très bien. Mais surtout après, tout ce qui était écrit, certes, il y avait de l'oral, on va faire autrement, mais l'écrit, c'est-à-dire la désignation des nouvelles épreuves sportives. Alors que les commissions de terminologie avaient fait leur travail et donné les noms français pour les nouvelles épreuves sportives, les nouvelles épreuves en question ont été annoncées en anglais. Les travaux des commissions de terminologie à la poubelle. Bon, mais alors, le résultat des épreuves était écrit uniquement en anglais, non traduit. Voilà ce que l'on a vu.
Non.
Donc, c'est une ironie, c'est sarcastique. Dernier point rapidement, Villers-Cotterêts, justement. Villers-Cotterêts,
oui, monsieur l'ambassadeur.
Oui,
écoutez, je vais reprendre la parole, parce que si vous permettez, parce que j'ai beaucoup de messages.
Si, ça y est, Villers-Cotterêts. Je vous disais tout à l'heure, la grande partie de Villers-Cotterêts reste vide.
Oui.
Alors, on a eu une proposition de Mme Ursula von der Leyen de mettre à Villers-Cotterêts, aussitôt approuvée naturellement par M. Macron, de mettre une toute petite chose, mais une alliance pour la technologie des langues à Villers-Cotterêts. Très bien, pourquoi pas, quand j'ai appris ça, moi. Mais on a vu dans la presse sortir ensuite que la langue de travail
serait l'anglais.
Quel humour.
Alors, voilà Macron.
Quel humour. Hein.
Voilà merci, Macron. Monsieur l'ambassadeur. C'est horrible. Merci. Laissons la parole maintenant aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, j'ai une première intervention. Si la France n'avait pas stupidement déclaré la guerre à l'Allemagne, nous n'aurions pas été obligés de nous jeter dans les bras des anglo-saxons et nous n'en serions pas là aujourd'hui. La situation actuelle est le résultat de la justice divine immanente. Bon, ça c'est une opinion. Une auditrice qui dit ceci, toujours passionnée par vos émissions, je voudrais préciser que ce que j'entendais à New York, à l'ONU, il faut tout faire pour empêcher le français de redevenir la langue primordiale pour les textes internationaux, car ils ne sont pas ambigus. Et puis, un autre message pour illustrer ce que dit Mme Brassier, à la Cité de la francophonie, pour illustrer le mot paquebot, il y a une illustration du Titanic. D'ailleurs, je voudrais souligner que l'origine du mot paquebot vient de l'anglais, paradoxalement, oui, c'était packet boat. Les croisières paquets,
ah oui.
Les packet boat, et c'est de là que vient le terme français paquebot. Et puis, un autre message d'un ami sympathique de Radio Courtoisie, qui est notre ami Eric Amers. Bonjour mesdames, messieurs, Madame Brassier nous fournit un exemple frappant quant à la présence française et par là sa langue, à savoir qu'avant notre présence, les peuples ne se comprenaient pas et se heurtaient. Aujourd'hui, ayant souvent oublié cette langue merveilleuse, ils se heurtent de nouveau. Merci pour cette excellente émission. Voici quelques messages. Anne Brassier, vous avez été gâtée également par les remarques de vos auditeurs.
Il y a encore autre chose, oui. Michel. C'est les dangers de l'intelligence artificielle, oui. dont on vante les merveilles matin, midi et soir. Mais cette intelligence artificielle, elle n'a aucune orthographe, aucune grammaire. Et tous ces textes qui apparaissent sur l'écran, je suis très, très vilaine. Oui. Je regarde beaucoup Internet. Mais c'est des agressions perpétuelles. Il n'y a pas d'orthographe, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de... Et alors, les voix qui lisent ces textes d'intelligence artificielle ne font aucune liaison.
Absolument.
Donc c'est quand même une souffrance pour quelqu'un qui parle français.
Absolument. Alors un message peut-être pour Pierre-Luc Faret, qui voudra nous dire son point de vue. Doit-on rappeler que l'actuel président, comme ses deux prédécesseurs, est un young leader, membre de la French American Foundation, et que son successeur est également pressenti pour faire partie du même sérail? Deux points, agent de l'étranger choisi pour diriger la France. Pierre-Luc Faret, est-ce que vous approuvez la position? Je ne sais pas si c'est...
Non,
c'est
je
une
n'ai
femme,
rien
c'est une
à rajouter.
De Radio Courtoisie.
Tout est dit.
Je n'ai rien à rajouter. Je ne dirais pas nos comments, ce serait un petit peu déplacé.
Il faudrait rendre hommage à Jean Ferret et à son cochon.
Parce que tout c'est, à fait, oui.
Il y a 40 ans...
Il faut expliquer ce que c'est que le petit cochon qui est toujours présent.
Qui est ici, là.
Oui, il est là et il est là-bas. Jean Ferret a tout de même eu cette extraordinaire présence d'esprit.
Il y a un petit cochon, une tirelire, et chaque fois que quelqu'un, invité ou un animateur, utilisait un terme anglais, il était obligé de mettre une pièce dans la tirelire, dans le cochon.
C'était une très jolie idée.
Absolument, défense de langue française.
On devrait mettre davantage de cochons dans les rues de Paris.
Mais moi, je dis souvent que Radio Courtoisie est avant tout une radio qui défend l'histoire, la géographie et la défense de langue française.
Bien sûr.
Monsieur l'ambassadeur.
Oui, trois nouvelles qui peuvent être intéressantes et à suivre. Nous avons parlé de la Chine tout à l'heure. La Chine fait actuellement
Laquelle Chine?
La Chine populaire. Communiste, la Chine actuelle de Xi Jinping.
D'accord.
C'est pas Taïwan.
Oui.
C'est pas Alex Formose. La Chine fait pour sa langue, parce qu'elle se soigne beaucoup sa langue. Longtemps, elle n'a pas fait d'essai d'expansion du chinois à l'étranger. Maintenant, elle s'y met depuis quelques dizaines d'années, doucement, et maintenant ça s'amplifie considérablement. Et puis, elle fait des instituts Confucius, on en a parlé tout à l'heure, partout. Donc elle cherche à développer sa langue pour appuyer sa puissance, parce que ça sera la première puissance mondiale bientôt, comme tout le monde le pense en tout cas, bien qu'elle ait des faiblesses, la grosse faiblesse, la Chine. Mais en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue l'anglais chez elle, c'est-à-dire qu'elle supprime autant que possible des formations en anglais, sous le prétexte qu'elles ne sont plus utiles, peut-être le sont-elles encore, mais peu importe, l'idée c'est, en tout cas, de diminuer progressivement la présence de l'anglais, trop prenante, sans doute, pas tort d'ailleurs, chez elle. Et puis, une chose principale de la part de la Chine, c'est qu'avec les pays des BRICS, elle lutte contre le dollar, c'est-à-dire elle cherche la dédollarisation du monde. Ça veut dire qu'elle s'attaque au premier facteur réel et réellement efficace de l'hégémonie américaine, enfin nord-américaine, états-unienne si vous préférez, dans le monde, c'est-à-dire la puissance du dollar qui lui permet de vivre à crédit en quelque sorte, sans, etc. Donc elle fait ça et ça augmente fort. La Russie s'y est mise elle aussi, et d'autres s'y mettent, et voilà, une action importante. D'autres, deux choses positives, plus directes par nous, ou pour nous. L'Angola, on citait des...
Portugais.
D'ex-portugais, d'ex-provinces portugaises à l'étranger. L'Angola, maintenant, vient de rendre obligatoire le français dans ses écoles primaire. Extraordinaire d'ailleurs, ça m'a étonné. Mais enfin, c'est une réalité. Et puis...
Ils nous ont quand même volé le Cabinda, il ne faut pas l'oublier. 60% du pétrole vient du Cabinda. Ils nous ont volé. Parenthèse.
Mais l'un des meilleurs... L'un des meilleurs produits d'exportation de la langue française en Afrique, c'est Jean de La Fontaine.
C'est Jean de La Fontaine.
Absolument. C'est mieux connu. en Afrique qu'en France.
Troisième bonne nouvelle, si vous voulez, mais intéressante, très intéressante, celle-là, France proprement dite, c'est le rapport que vient de publier Mme Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, de Kagame, de Paul Kagame. Son rapport, elle est secrétaire générale de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Son rapport annuel vient cette fois de prouver, parce que c'est sérieux, c'est des chiffres sérieux qu'il donne sur le français dans le monde avec les niveaux de connaissances. Les niveaux de bonnes connaissances maternelles et autres, de bonne capacité de parler, de capacité d'écrire, si vous voulez. C'est sur ces critères-là qu'elle base le chiffre que je vais vous donner. Ce chiffre est passé à 396 millions, très exactement. C'est-à-dire tout près de 400 millions de locuteurs francophones dans le monde. C'est-à-dire que ça fait passer la France, ça monte, hein, ça, vous le savez d'ailleurs par ailleurs, ça monte la France au quatrième niveau
mondial.
Au lieu d'être au septième, il y a encore très peu de temps. Voilà.
Je voudrais raconter une petite anecdote amusante au point de vue précision de la langue, parce qu'on parlait de la Chine, vous parliez de la Chine. J'étais dans le cadre j'étais invité pour une mission parlementaire, j'étais au Parlement à ce moment-là, en Chine populaire, avec d'autres représentants d'autres partis politiques. Et nous sommes reçus par l'ambassadeur de Chine populaire à Paris, en l'occurrence c'était Neuilly, enfin peu importe, qui me dit, qui se tourne vers les uns et les autres et vers moi-même en disant: et vous, monsieur le député, est-ce que vous êtes allé en Chine? Et je lui réponds très courtoisement: monsieur l'ambassadeur, je ne suis jamais allé en Chine populaire. Il me répond: ah, donc vous êtes allé à Taïwan? Je lui dis: oui, monsieur l'ambassadeur, je suis allé en République de Chine. Donc voilà la précision, si vous voulez. Et vous aviez invité, nous avions fait une émission remarquable, monsieur l'ambassadeur, et voici une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, avec Jean-Marie Le Pen, et vous aviez souligné le fait qu'il avait le souci du mot juste.
Ah oui?
Le mot juste. Or, cette notion du mot juste, et vous reconnaître que c'était quelqu'un qui parlait remarquablement bien.
Remarquablement.
Absolument.
Et sa fille s'y efforce et n'y arrive pas.
Il avait dit que dans les études primaires comme secondaires, on avait le souci de rechercher le mot juste.
Mais attendez, si on reprend ça, on peut se dire que dans nos générations, on étudiait le latin, voire même le latin et le grec,
oui,
pour justement affiner notre pensée. Et aujourd'hui, c'est largement le français qui joue ce rôle. Et un des exemples, c'est Boilem Sansal.
Absolument.
Il a appris le français, absolument, comme vous, de sa mère, dans le lait de sa mère. Et il a été à l'école primaire en Algérie, qui était celle où je suis allé, où tout le monde...
Avec un hussard noir.
Ben oui. Et il pense remarquablement. Parce que c'est la formation initiale du cerveau. J'avais un frère qui était professeur de neurologie et qui me disait qu'on n'étudie pas assez, justement, non pas la formation, disons, physiologique et du cerveau, c'est-à-dire ce qu'on imprime dans le cerveau. On parlerait aujourd'hui de l'intelligence.
Et Michel, vous avez fait une bien belle émission sur Boilem Sansal. Vous m'avez permis de découvrir cet écrivain de voir la façon dont il est traité aujourd'hui, parce qu'il dit la vérité. C'est absolument odieux. Parce qu'on n'en est plus du tout à rechercher la signification du mot, la signification juste d'un mot. On en est à déguiser le mot.
Oui, c'est vrai.
On va vous soigner, on va prendre soin de vous en vous tuant avec des vaccins. Oui. La paix, c'est la guerre. Mmh. On est dans une situation orwellienne.
Oui. Oui.
C'est tout.
Oui. On parle de mourir dans la dignité.
C'est invraisemblable.
Pas tort.
Et si vous voulez, là, on a dépassé des lignes, mais c'est hallucinant. Enfin, vous parliez, je ne savais pas tout cela, que M. Macron annonce à coup de trompette des actions pour la diffusion du français, et derrière,
C'est le contraire.
Il y a des mots dont on change le sens.
C'est le en même temps.
C'est l'hypocrisie totale. Je suis désolé d'être comme moi. Je suis un haut fonctionnaire formé à respecter l'État. Je suis obligé de critiquer vigoureusement Macron. Oui. C'est fou. J'en souffre.
Pierre-Luc Farré.
Très rapidement, parmi les actions au plus haut niveau de l'État pour lesquelles on peut s'interroger, vous avez parlé de cette Rwandaise qui a été nommée à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut rappeler que c'est un soutien constant de Paul Kagame, c'est-à-dire celui qui a chasser le français du Rwanda, en fait.
Oui, exactement.
Ça, mais pour instaurer l'anglais.
Ça fait partie de l'hypocrisie générale.
Voilà, sous les ordres de l'Ouganda, qui est comme chacun sait, est la plaque tournante des services secrets américains et britanniques dans cette partie de l'Afrique, pour chasser le français dans cette région-là. Que l'on nomme une telle personnalité à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est quand même sidérant. Alors, vous m'avez dit quelque chose, je crois que vous pouvez le redire maintenant.
Honnêtement, il faut, parce que je cherche toujours à être honnête, comme je vous ai dit que c'était merveilleux, la restauration de Villers-Cotterêts, c'est vrai. Bon, Madame Mushiki Webo, on sait tout ça, je me suis méfié terriblement quand je l'ai vue arriver, c'est évident. Bon, mais elle a au moins l'honnêteté de s'efforcer de faire quelque chose pour cela. Et elle fait du travail qui ne dérange personne, si vous voulez, mais elle le fait comme, de même, je dirais, comme la délégation générale à la langue de France, la délégation française du ministère de la Culture, c'est un peu la même chose. Ces gens qui sont à la délégation générale à la langue française, qui sont des amis d'ailleurs, mais que je vois de moins en moins, parce que, bon, ils ne peuvent rien faire qui dépasse, si vous voulez, le quotidien. Et ils font un travail remarquable, un bon travail, mais surtout, il ne faut pas toucher à la politique de la langue. Or, ils sont aussi faits pour ça. Alors, il n'y a plus que nous, les associations, pour faire la critique de la politique de la langue.
Anne Brassier.
Bon, je trouve que le constat que nous avons fait ce matin et toute cette réflexion de M. Albert Salon sont totalement exacts. Il n'y a rien à dire et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je pense que.
Mais cependant, la langue française.
Je pense que mes petites filles parleront anglais.
La langue française se défend mordicus en dehors des frontières de la France.
Oui, c'est sûr. Non, puis. Mais je vous dis, ce qui est le plus grave pour nous, c'est, je trouve, c'est ce mensonge de la langue. Et donc, le problème de l'exactitude du mot, c'est même plus, on n'en est même plus là. On a dépassé de...
Mais il faut également évoquer le fait de changer le sens des mots. Et ça, c'est extrêmement grave, car il y a des volontés politiques derrière la modification du sens des mots. Je prends un exemple parmi d'autres. Le terme « détail », par exemple, qu'on a voulu traduire par minoratif.
Bien sûr.
Lorsqu'on parle du détail d'un tableau, c'est au contraire l'élément majoratif du tableau. Or, le détail, c'est simplement une petite partie d'un tout. C'est simplement, voilà, ce n'est ni minoratif, ni majoratif, c'est une partie d'un tout.
Mais Michel, vous avez parfaitement raison, mais ça souligne ce que je voulais démontrer, c'est que la personne qui vous attaque met sous ce mot quelque chose de différent, donc on peut plus se comprendre.
Ben, on parle tout
et comme
simplement.
Le pouvoir, c'est le pouvoir qui décide le sens des mots.
Bien sûr.
On va tous passer en justice.
Aujourd'hui, on parle. Un jour, Julien Drey, que je côtoyais au conseil régional et qui m'avait battu comme député, me dit le problème avec vous, c'est que vraiment vous n'êtes pas fasciste. Me dit-il. Je lui réponds effectivement, vous avez raison. Je n'ai jamais été de gauche. mais aujourd'hui, le terme de fascisme aujourd'hui donne lieu à des tas d'interprétations qu'on voit dans la presse, qui n'a rien à voir avec l'avènement de cette forme.
Mais vous savez que le mot a été lancé par Lénine, accuser les gens d'être fascistes à chaque fois qu'ils s'opposent à vous. C'est écrit en pleine lettre. Donc utiliser le langage de l'ennemi, c'est d'une bêtise incommensurable.
Absolument. Alors Pierre-Luc Faret...
Parmi ces mots, je vais être très court, simplement il y a des mots qui ont été, dont le sens a été complètement inversé. Exactement. Et je pense notamment au principe de subsidiarité, qui est un des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, et qui au niveau de l'Union européenne a été complètement renversé. C'est-à-dire que...
Tout à fait.
Enfin, chacun sait, trouvera dans le dictionnaire ce qu'était le principe de subsidiarité, et aujourd'hui c'est l'inverse. Et ce n'est bien évidemment pas innocent, parce que c'est la structure même de la prise de décision qui a été complètement inversée. Ce n'est pas un hasard.
Vous avez parfaitement raison. On pourrait évoquer également le terme sans doute qui veut dire assurément, et bien non, au contraire, on dit c'est vraisemblablement.
Oui.
Donc voici la modification qui n'est pas innocente, la modification du sens des mots, et d'où l'importance, monsieur l'ambassadeur, de la détermination du mot juste. Mes chers amis auditeurs, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de Michel de Rostolan, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 11 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.